Le journal, Adrien Taufollet, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Réunion de crise ce matin à Londres sur fond de renforcement de la crise sanitaire, la découverte d'une souche plus contagieuse du coronavirus au Royaume-Uni. Boris Johnson convoque son gouvernement pour faire face à l'isolement de son pays. Plusieurs nations, dont la France, ont décidé de suspendre pour plusieurs jours tous les déplacements en provenance du sol britannique. Une crise de plus à gérer à quelques jours de la sortie du marché unique européen.
Et dans votre journal également, Adrien Taufollet, direction l'Italie, où un premier cas de cette variante du coronavirus a été détecté. Sur place, on joue la prudence à quelques jours d'un renforcement des restrictions sanitaires.
Nous ferons le point également sur la situation sanitaire en France, malgré la hausse des cas de contamination et de ce risque de voir arriver cette nouvelle variante du virus. Le couvre-feu reste la solution privilégiée par le gouvernement pour limiter la propagation de l'épidémie.
Sans surprise aussi, le nouveau maire de Marseille, qui s'appelle Benoît Payan.
Oui, après la parenthèse, Michel Rubirola, un socialiste, prend la tête de la deuxième ville de France. Nous analyserons cette arrivée avec notre invité, le politologue Nicolas Maizetti. Dans l'actualité, également 3 heures d'audience au Conseil d'État pour se pencher sur la réouverture des lieux de culture. Compte rendu tout à l'heure d'Anne Lamotte. Et puis en Allemagne, c'était une décision de justice très attendue. Le verdict du procès de l'attaque antisémite de la synagogue de Halle. En octobre 2015, l'assaillant a été condamné à une peine de prison à perpétuité, correspondance à Berlin de Ludovic Piétenu. C'est donc dans l'urgence que Boris Johnson a convoqué une réunion de crise ce matin suite à la découverte d'une nouvelle variante hors de contrôle du coronavirus sur le territoire. Elle serait, selon les autorités britanniques, jusqu'à 70% plus contagieuse, mais sans apporter une gravité supplémentaire à la maladie. Dès l'annonce hier, en tout cas, plusieurs pays ont décidé de suspendre pour plusieurs jours les déplacements en provenance du sol britannique, l'Allemagne, la Belgique, le Canada, l'Irlande, l'Italie, la France également, pour une durée de 48 mesures de précaution, justifie le gouvernement ce matin, ce qui pousse le gouvernement de Boris Johnson à s'organiser en prévision des fêtes de fin d'année et du Brexit le 31 décembre à Londres. Les précisions de Maxence Peigné.
Boris Johnson est sur le pied de guerre. Il réunit depuis ce matin les membres de son gouvernement pour une réunion de crise afin d'apporter une réponse à la fermeture des frontières décidée par plusieurs pays européens. Principal problème à résoudre, les chaînes d'approvisionnement et le risque de pénurie. Car pendant 48 heures au moins, le port de Douvres va rester à l'arrêt. Il accueille normalement 10 000 camions par jour depuis la France en cette période de l'année. À l'approche du Brexit, les embouteillages y étaient d'ailleurs quotidiens la semaine dernière, alors que les entreprises tentaient de faire des stocks en vue d'un possible no deal. Ce matin, le ministre des Transports, Grant Shapps, a essayé de temporiser en expliquant que 80% des importations du pays arrivaient par conteneur et ne devraient donc pas être touchées par les nouvelles restrictions sanitaires. Mais au même moment, l'aéroport de Manston, près de Douvres, était converti en gigantesque parking prêt à accueillir 4000 camions en cas d'engorgement. De leur côté, les grandes surfaces ont voulu rassurer en précisant avoir assez de provisions pour Noël et le Nouvel An.
Maxence Peigné, quelque peu éclipsé ce week-end par la situation sanitaire au Royaume-Uni. Le Brexit devrait, je le disais, une nouvelle fois apparaître au menu des discussions du jour entre Londres et l'Union européenne, avec ses négociations pour le moins pesantes depuis plusieurs jours autour de l'épineuse question de la pêche, le partage d'environ 650 millions d'euros de produits pêchés chaque année par l'UE dans les eaux britanniques. Le bras de fer sur cet enjeu économique aurait dû s'achever hier soir, mais comme toujours depuis le début du processus engagé par le Royaume-Uni, cela s'est vérifié sur d'autres sujet de désaccord, les négociations prennent du retard. On est à 10 jours de la rupture définitive, la sortie du marché unique européen et de l'union douanière le 31 décembre. L'Italie, je le disais, fait partie de ces pays qui limitent les contacts avec le Royaume-Uni, car un cas a été identifié au moins une fois en Italie. C'est Olivier Véran, le ministre de la Santé français, qui donne cette précision ce matin à nos confrères d'Europe 1. Bruce de Galzin, bonjour.
Bonjour.
Pour l'instant, on ne parle que d'un seul cas, mais on s'attend déjà à une propagation plus importante.
Ah oui, un seul cas officiellement annoncé par le ministre de la Santé ici en Italie, un seul cas séquencé par l'hôpital militaire de Celio à Rome, mais la patiente en question est en couple et c'est son compagnon qui était en Angleterre il y a 4 jours. Tous les deux sont isolés à domicile, n'ont pas de symptômes et se portent bien. Leurs proches et toutes les personnes avec qui elles ont été en contact suivent les procédures sanitaires, assure le ministre de la Santé. Mais un autre cas de cette variante est déjà évoqué par la presse, celui d'une jeune Italienne de 25 ans venant de Londres. Londres, elle aussi, elle a atterri dans les Pouilles. À Palerme également, on attend les résultats de plusieurs tests. De toute façon, il y aura plus de cas puisque cette variante est présente en Angleterre depuis 3 mois, ouais, explique un virologue qui, au passage, aurait préféré, c'est un euphémisme, être prévenu plus tôt par les autorités outre-Manche. Et désormais, toutes les personnes ayant transité par l'Angleterre au cours des 14 derniers jours doivent se faire tester et se mettre en quarantaine. Mais l'on rassure aussi, si cette variante est plus contagieuse, le vaccin reste efficace et il n'y aura pas non plus de nouvelles restrictions qui seront déjà sévères dès jeudi puisque l'Italie se reconfine comme en mars et en avril dernier, avec tout de même la possibilité de sortir de chez soi une fois par jour avec 2 adultes et avec les enfants de moins de 14 ans pour aller voir des amis ou de la famille, mais sans quitter sa région.
À Rome, Bruce de Gelsin, merci. À contre-courant de la très grande majorité des pays du monde, les États-Unis, eux, se montrent sereins face à cette évolution du coronavirus. Alors qu'on dénombre là-bas près de 3000 morts par jour et 200 000 nouvelles infections quotidiennes, les autorités américaines ne prévoient pas pour l'heure de mesures de restriction de voyage avec le Royaume-Uni et se contentent d'une surveillance très attentive de la situation chez leurs cousins britanniques. C'est ce que déclarent plusieurs responsables aujourd'hui. Preuve supplémentaire que Washington mise toute sa stratégie de crise sur sa campagne de vaccination débutée il y a une semaine. Un nouvel arrivage de 8 millions de doses doit être livré aujourd'hui dans tout le pays, dont les 3/4 constitués du vaccin Moderna, qui a reçu vendredi dernier le feu vert des autorités sanitaires américaines. De l'autre côté de l'Atlantique, l'Agence européenne des médicaments doit se pencher aujourd'hui sur le sort du vaccin Pfizer-BioNTech, sa mise sur le marché ou non. Une décision de l'AME très attendue. Plusieurs pays, dont l'Allemagne, ont fait pression sur elle pour qu'elle avance d'une semaine sa réunion, prévue le 29 décembre à l'origine. Si le régulateur européen accorde aujourd'hui une autorisation d'urgence au vaccin, les États membres de l'UE pourront entamer, comme ils l'espèrent, la campagne de vaccination le 27 décembre prochain. Sans attendre l'arrivée de cette variante du coronavirus en France, le gouvernement ne semble pas vouloir revoir, à cette heure en tout cas, revoir le dispositif de restrictions sanitaires. Malgré les chiffres toujours très hauts des cas de contamination, près de 13 000 ces dernières 24 heures, précaution, prudence sont les mots utilisés par le secrétaire d'État aux affaires européennes, Clément Beaune, ce matin. Bénédicte Robin, bonjour.
Bonjour.
Et couvre-feu simple, maintenu à l'approche des fêtes.
La situation est précaire, de l'aveu même du ministre de la Santé, Olivier Véran, invité de nos confrères d'Europe 1 ce matin. Bien loin de l'objectif des 5000 cas identifiés par jour, on stagne, vous l'avez dit, au-delà des 12 à 15 000, c'est élevé et pas vraiment beaucoup moins qu'en Italie ou en Espagne par exemple. Autour des 15 000 cas par jour pour l'une, des 18 000 pour l'autre. Mais la dynamique semble différente. Il y a une forme de plateau, de stagnation en France, alors qu'il y aurait une croissance chez nos voisins particulièrement forte. On l'a vu en Allemagne, qui a franchi la barre des 30 000 cas quotidiens et renforcé du même coup ses mesures. Pour expliquer cette différence de situation et donc de réponse, le gouvernement français met en avant l'anticipation dont il a fait preuve. Le couvre-feu suivi du confinement ont été décidés plus tôt qu'ailleurs en Europe. Il faut dire que les contaminations dépassaient les 50 000 par jour. Mais cela a permis de faire baisser les courbes, et en particulier celle des hospitalisations et des réanimations, qui sont aujourd'hui toujours stables. Il y a donc une forme de contrôle très fragile de la situation qui peut dégénérer très vite avec les deux réveillons qui arrivent, les réunions de famille, les déplacements d'une région à l'autre. L'exemple des festivités de Thanksgiving aux États-Unis fin novembre qui ont entraîné une explosion des cas, celui d'un long week-end férié en Espagne début décembre qui a eu des effets semblables, pose forcément question, et d'autant plus qu'à entendre les épidémiologistes, il est plus facile de contenir l'épidémie en agissant en amont plutôt que de courir derrière. Cela dit, pour que des mesures soient efficaces, il faut aussi qu'elles soient acceptées. Le gouvernement est contraint au compromis sanitaire et politique.
Bénédicte Robin, merci. La situation à l'hôpital, c'est à l'ordre du jour de la grande table des idées, Olivia, justement.
Avec notre invité Patrick Peloux, le médecin urgentiste, nous reviendrons effectivement sur le rôle joué par l'hôpital, par les médecins, par les soignants dans cette crise sanitaire. Pour l'heure France Culture, il est 12h39. La suite de votre journal, Adrien Toffolet.
Il n'y a pas eu de coup de théâtre à Marseille. Le conseil municipal a élu ce matin le socialiste Benoît Payan, nouveau maire de la cité phocéenne. Il succède à l'écologiste Michel Rubirola, démissionnaire pour raison de santé seulement 6 mois après son élection. Et malgré la contestation de l'opposition qui voit un déni de démocratie, l'issue de ce 4e tour des municipales n'a laissé aucune place à la surprise à Marseille. Compte rendu de séance par Mathilde Vinceneux.
Il n'aura fallu qu'un tour pour que Benoît Payan enfile l'écharpe de maire.
Monsieur Payan est élu au premier tour à l'unanimité des suffrages exprimés.
L'ensemble des élus de l'Union de la gauche et du groupe allié de Samia Ghali ont voté pour lui. La droite et le Rassemblement national ont, eux, quitté l'hémicycle avant le début du vote. La majorité est donc restée unie. Alors Benoît Payan salue son collectif et rappelle ses engagements dans son premier discours de maire.
Je suis membre de ce rassemblement, d'une majorité qui défend une ville plus verte, plus juste et plus démocratique et qui se donne deux priorités. Rassembler les Marseillais en combattant les injustices et dessiner l'horizon d'une ville durable qui se développe par et pour ses habitants.
Comme prévu, Michel Rubirola est désigné premier adjointe. C'est donc le même duo à la tête de Marseille, mais les fauteuils sont inversés. Une mascarade, dénonce l'élu Les Républicains Guy Tessier, doyen de l'hémicycle.
J'y vois comme beaucoup une forme de déni de démocratie, vous le dis-je. Et abracadabra, vous avez voté Rubirola, Evelyn, vous avez Payan.
Benoît Payan, qui a 42 ans, devient le plus jeune maire de Marseille.
Mathilde Vinteneux. Poursuivons sur le sujet avec l'invité de la rédaction ce midi, Nicolas Maizetti, politologue à l'université Gustave Eiffel et auteur d'une thèse sur la ville de Marseille. Bonjour à vous.
Bonjour.
Nous venons d'entendre le détail de ce conseil municipal. Alors en soi, cette arrivée de Benoît Payan à la tête de Marseille se fait sans grande surprise. Mais que dire de la majorité derrière le nouveau maire ? Cette majorité est-elle aussi solide que celle obtenue par Michel Rubirola ?
Alors en apparence, pour l'instant, oui, tout à fait. Puisque Benoît Payan a pu bénéficier de l'unanimité des votes des membres du Printemps marseillais, donc de sa majorité. D'une majorité qu'on a entendue d'ailleurs ce matin assez bruyante pour protester contre les protestations de l'opposition, signe d'une unité, en tous les cas pour l'instant, de cette majorité. Maintenant, il est vrai que le Printemps marseillais est un mouvement très composite et qui rassemblait, ça a été dit, hein, des élus, des membres d'organisations partisanes, mais aussi des membres de la société civile. Et de ce point de vue-là, de ce collège société civile du Printemps marseillais, on a pu entendre depuis la démission de Michel Rubirola quelques inquiétudes, quelques doutes, en particulier sur certaines avancées du projet. Et du coup, effectivement, Benoît Payan va être face à cette difficulté de sa légitimité démocratique, mais également de l'appui de sa majorité, dans ce cas-là, de plus diverses.
À mes côtés, Stéphane Robert, chef du service politique de France Culture, bonjour.
Bonjour. Nicolas Maizetti, comment est-ce que vous expliquez-vous que Samia Ghali se range sans difficulté derrière Benoît Payan, alors qu'il y avait eu des discussions assez difficiles pour l'élection de Michel Rubirola ?
Alors, elle a expliqué qu'effectivement, elle avait conclu un pacte avec le Printemps marseillais et non pas avec Michel Rubirola. Donc, de ce point de vue-là, elle conserve la parole qu'elle avait donnée à l'ensemble du mouvement et à la majorité. D'un autre côté, on peut dire aussi qu'elle n'avait pas tellement de choix, ou plutôt son poids arithmétique ne pèse pas au point de pouvoir menacer ou fragiliser la majorité du Printemps marseillais. Certains membres de LR élus dans les arrondissements du Nord 13-14 ont rallié d'ailleurs la majorité du Printemps marseillais, si bien que d'un point de vue arithmétique, finalement, le poids de Samia Ghali n'est pas celui qui est souvent véhiculé, mais qui est aussi réel, hein, son poids politique, sa notoriété nationale, bien sûr, et aussi le fait qu'elle représente, elle incarne la voix des quartiers populaires et des quartiers nord. Et de ce point de vue-là, pour le Printemps marseillais, c'est important aussi de l'avoir à ses côtés qu'en dehors. Et du coup, il y a, je pense, un gagnant-gagnant qui a pu se faire. Il faudra être attentif aux délégations. Alors, on a vu que les adjoints viennent d'être annoncés et Samia Ghali n'a pas réussi à intégrer les deux de ces listes qui étaient nommés adjoints lors de juillet, mais qui ont été retirés suite aux enquêtes sur les procurations. Ça à suivre encore, mais également d'autres arbitrages qui vont avoir lieu, notamment autour de la présidence d'Euroméditerranée, hein, cet établissement public d'aménagement, et aussi, il se murmure qu'elle pourrait conduire les listes de la gauche aux prochaines départementales, et ça pourrait aussi avoir été l'un des éléments de négociation, alors chacun des membres bien sûr, hein. Mais voilà, il y a des négociations plus larges qui se jouent entre Samia Ghali et la majorité du Printemps marseillais.
Est-ce qu'on assiste avec l'élection de Benoît Payan au retour du Parti Socialiste qui, avec Gaston Defferre et Robert Vigouroux, a gouverné Marseille jusqu'en 1995?
Alors, était-il jamais parti, ce Parti socialiste et ses partis? C'est la question qu'on peut poser, parce que finalement, effectivement, il y a eu toute cette période pendant les mandats de Jean-Claude Gaudin avec Jean-Noël Guérini qui a dominé ce Parti socialiste marseillais des Bouches-du-Rhône, avec la fin et les affaires que l'on sait. Ensuite, il y a eu cette tentative de recomposition, effectivement, autour du printemps marseillais, mais c'est ce qu'on disait, hein, dans lesquelles les organisations partisanes, en particulier le PS, mais aussi le PCF, il faut pas l'oublier, hein, ont pesé vraiment de tout leur poids et de tout leur ressources en termes de réseaux militants, en termes de savoir-faire stratégique aussi, hein, et programmatique, pour s'imposer finalement à l'intérieur du printemps marseillais, et puis aussi on le voit aujourd'hui dans le pouvoir municipal. Donc c'était peut-être qu'un retrait tactique, finalement on le saura un peu plus tard, hein, dans ce qui s'est passé dans les négociations entre Michel Rubirola et Benoît Payan, et dans la manière dont Benoît Payan a réussi à s'imposer finalement. Mais voilà, je pense que c'est vraiment la démonstration de la résistance, de la résilience des organisations partisanes qui ont été peut-être un peu trop vite annoncées comme étant... voilà, sur le déclin ou en voie de disparition, là, c'est vraiment la marque de leur force, de leur résistance.
Merci beaucoup, Nicolas Maizetti, politologue à l'université Gustave Eiffel et donc auteur d'une thèse sur la ville de Marseille. Merci également à Stéphane Robert du service politique de France Culture pour les questions. Direction Paris maintenant. Le Conseil d'État se penche depuis ce matin sur plusieurs recours formulés par le monde du cinéma, du théâtre, de la musique et du cirque. Tous les professionnels de la culture dont l'activité est à l'arrêt au moins jusqu'au 7 janvier pour lutter contre la pandémie et qui demandent à la plus haute juridiction administrative du pays d'autoriser la réouverture des lieux de culture. Anne Lamotte, bonjour.
Bonjour Adrien.
En direct du Conseil d'État, dossier complexe, l'audience est terminée, elle a duré 3 heures. Que ressort-il des discussions ?
Alors c'est avec des chiffres hein, d'abord que cette longue audience débute, ceux du ministère de la Santé, les 131 décès dus au Covid hier, les quelques 25 000 malades toujours hospitalisés. Les hôpitaux ne se vident pas, ils se remplissent, on est sur un plateau ascendant, insiste Charles Touboul, le directeur juridique du ministère, sans parler de cette nouvelle souche plus contagieuse qui vient d'être détectée au Royaume-Uni et qui oblige notamment Londres à se reconfiner. Bref, la situation est extrêmement préoccupante, martèle Charles Touboul, et il explique que les salles de spectacle et les salles de cinéma sont des endroits clos dans lesquels il y a des mouvements de population, des interactions entre les gens, ce qu'il faut justement limiter au maximum. Sauf qu'on ne doit pas laisser les chiffres asphyxier le débat, lui répondent en face les requérants comme le chanteur Francis Lalanne, très remonté. Il rappelle, il n'est pas le seul d'ailleurs, qu'aucune étude spécifique ne prouve que le virus circule plus dans un théâtre que dans un commerce ou dans un lieu de culte. Non, aucune, admet le ministère de la Santé. L'artiste ne supporte plus cette rupture d'égalité, comme il l'appelle, et il s'interroge, il s'insurge. Faut-il désormais que nous allions chanter dans les églises ou dans les grands magasins où les gens se pressent les uns contre les autres? Alors que Jean-Michel Ribes, lui, tient à revenir sur le protocole très strict auquel s'est astreint son théâtre, le théâtre du Rond-Point à Paris, lors du déconfinement, distanciation, aération, évacuation du public rangée par rangée, et qui raconte aussi, Jean-Michel Ribes, l'aspect thérapeutique du théâtre, cette respiration nécessaire, cet outil de résilience, ce message envoyé au public que tout n'est pas foutu, dit-il. Nous n'apportons pas la mort, conclut-il, nous apportons la vie. Charge maintenant au juge de trancher, Adrien. La décision sera rendue mercredi soir.
Anne Lamotte en direct du Conseil d'État avec Arthur Dumont aux moyens techniques. Une enquête pour injures à caractère raciste et provocation à la haine raciale ouverte par le parquet de Paris. Cela fait suite aux insultes antisémites qui ont visé Miss Provence sur les réseaux sociaux ce week-end en plein concours. April Benayoun a été la cible de messages haineux dès lors qu'elle a évoqué l'origine israélienne de son père. Les investigations ont été confiées à la brigade de répression de la délinquance contre la personne. En Allemagne, c'était une décision de justice importante et très attendue. Le verdict du procès de l'attaque antisémite de la synagogue de Halle, c'était en octobre 2019. Bonjour Ludovic Piétonu.
Bonjour Adrien, bonjour à toutes et tous.
L'assaillant vient d'être reconnu coupable ce matin, sans surprise, condamné à une peine de prison à perpétuité.
Oui, la synagogue de Halle vient ce matin-là de faire rentrer 52 fidèles. Le lieu de culte se trouve dans une petite cour protégée par un simple mur en briques et une porte en bois qui venait tout juste d'être verrouillée. Quand Stéphane Baillet se présente, armé jusqu'aux dents et en treillis militaire, il trouve porte close. Il tente de la faire sauter avec des explosifs de fortune qu'il a fabriqués lui-même. Sans succès, il s'énerve, vide son chapeau.
Alors, nous venons de perdre Ludovic Piétonu qui était en direct de Berlin, que nous retrouverons peut-être dans un prochain journal sur France Culture. Des envois de soldats étrangers en Centrafrique, 3 jours après l'offensive de groupes armés dans le pays, qualifiée par le gouvernement de tentative de coup d'État perpétrée par les rebelles de l'ex-président François Bozizé. Les autorités centrafricaines annoncent l'arrivée de plusieurs centaines de soldats russes et rwandais sur le territoire, déploiements qui se font dans le cadre d'accords bilatéraux de défense, les troupes doivent permettre d'assurer la sécurité du scrutin présidentiel qui aura lieu dimanche prochain. En Hongrie, c'est une première depuis 10 ans. L'opposition prévoit de s'unir contre le Premier ministre Viktor Orban et son parti, le Fidesz. Les libéraux, les écologistes, les socialistes ainsi que l'extrême droite feront donc front commun aux législatives de 2022. L'opposition qui a le vent en poupe dans les sondages grâce à la mauvaise gestion de la pandémie par le pouvoir d'une part, et grâce au scandale qui a touché l'un des eurodéputés proches d'Orban d'autre part, arrêté à Bruxelles. C'était au mois de novembre, en plein confinement, lors d'une soirée libertine gay, alors que la Hongrie a voté nombre de lois anti-LGBT ces dernières années. L'opposition s'est donc mise d'accord hier sur un système de primaire pour ne présenter qu'une seule liste au niveau national et un seul candidat par circonscription. Seule façon pour eux de contrer les dernières attaques de Viktor Orban sur la loi électorale. Le dirigeant illibéral a pris un soin tout particulier pendant cette décennie au pouvoir, à réécrire la Constitution pour limiter les contre-pouvoirs. C'est une véritable consécration en bourse. C'est aujourd'hui que Tesla va faire son entrée dans la cour des grands. Le groupe du milliardaire Elon Musk intégrera tout à l'heure le club très select de Wall Street, l'indice S&P 500, l'équivalent du CAC 40, les 500 plus grandes sociétés cotées aux États-Unis. Marie Viano.
Tesla continue de cumuler records et grands écarts. Records, car vu sa capitalisation boursière, c'est-à-dire le cours de son action multiplié par le nombre d'actions en circulation, l'entreprise se retrouve directement à la 5e place de cet indice, juste derrière Apple, Microsoft, Amazon et Facebook. Tesla est donc l'entreprise la plus valorisée à son entrée dans cet indice qui regroupe les 500 entreprises américaines les plus cotées. L'action valait $200 en juin, quasi 700 aujourd'hui. L'entreprise d'Elon Musk pèse donc directement 1% de l'indice, alors que l'entreprise qu'elle remplace pesait, elle, moins de 0,02%. C'est une forme de consécration, mais c'est surtout pour les petits porteurs américains que cela va changer quelque chose. Depuis quelques années, ce qui marche très bien en bourse, c'est ce qu'on appelle les ETF, des fonds qui répliquent le cours de tel ou tel indice, dont le S&P 500. Le fait que Tesla l'intègre va permettre à tous ceux qui achètent ces fonds de bénéficier de l'effet Tesla sur leur portefeuille. Et cela vaut aussi pour les retraités américains dont les pensions sont gérées en partie en bourse via cet indice. La bourse est censée reproduire la santé économique des entreprises, mais là, grand écart, Tesla n'est classée que 320e pour ses revenus, alors qu'elle fait partie des 10 plus grandes valorisations boursières. Alors qu'elle entre au S&P 500, gage de notabilité, les autorités allemandes ont par ailleurs suspendu vendredi dernier une partie du chantier de l'usine qu'elle construit près de Berlin, car Tesla n'a toujours pas payé les 100 millions d'euros de garantie qu'elle s'était engagée à payer pour bénéficier d'une procédure accélérée pour ce grand chantier.
Marie Viano, Bruxelles autorise aujourd'hui la fusion entre les constructeurs français PSA et l'américain Fiat Chrysler en vue de former le 4e groupe automobile mondial. Tout cela sous réserve d'engagement des deux entreprises, notamment pour préserver la concurrence dans le marché des petits utilitaires. Le temps cet après-midi, pluvieux sur la majeure partie du pays. Le soleil se fera rare, excepté de façon ponctuelle sur la côte basque, dans le Var, les Alpes-Maritimes et la Corse. Les températures maximales évolueront entre 7 et 16 degrés, 7 à Strasbourg et Aurillac, 11 à Paris et Toulouse, 14 à Brest, La Rochelle et Marseille, 16 à Biarritz et Ajaccio. Ce journal a été préparé avec Nicolas Pommet. Merci à lui.